Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Euthanasie et fin de vie face à la médecine, à l'éthique et à la justice, avec Véronique Fournier. Existe-t-il un droit de mourir ? Tout acte de donner la mort est-il un meurtre ? Et quelle différence y a-t-il entre tuer et laisser mourir ? Y a-t-il enfin des morts qui privent l'être humain de toute dignité en même temps qu'elles le privent de la vie ? L'euthanasie, la mort douce, la mort infligée pour éviter ou interrompre les souffrances, la mort désirée par le mourant, soulève des questions morales graves. Merci Véronique Fourier d'être avec nous pour en parler. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Questions d'éthique pour nous aider à instruire ces questions. Mais il se trouve que, du fait de votre expérience au centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, et surtout à cause de plusieurs cas tout à fait poignants qui ont mis l'euthanasie aux yeux du public, la question de l'euthanasie aux yeux du public. Vous avez eu la possibilité de vous exprimer plusieurs fois dans la presse sur cette question, sur les évolutions que vous attendiez, en particulier de la loi Leonetti qui est la référence. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous demander comment vous percevez l'évolution du débat et l'évolution des esprits. Il y a eu plusieurs cas assez dramatiques récemment, vous allez les évoquer. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers une révision de la loi Leonetti qui aujourd'hui encadre l'interruption des soins ? Ou bien est-ce que vous pensez que le débat pour l'instant est encore en voie d'instruction ?
Écoutez, j'ai l'impression que la volonté politique affichée est effectivement de réviser la loi. C'est un engagement du président de la République qui a été répété à ma connaissance lors de ses vœux récents. Et donc, il me semble que, oui, il y a une volonté politique de faire évoluer cette loi. Maintenant, est-ce qu'elle va aboutir, cette volonté politique ? Ça, c'est une autre question, je ne sais pas.
Mais alors, évoluer de quelle façon ? Pour être plus clair sur les cas concernés, puisque vous avez peut-être évoqué le cas de Vincent Lambert, mais certains pensaient que la loi Leonetti peut s'y appliquer, d'autres pensent qu'elle ne peut pas s'appliquer, donc rendre la loi plus précise. Ou bien aller vers d'autres dispositions telles le suicide assisté.
Il me semble que la proposition de révision de la loi, elle date d'avant l'affaire Vincent Lambert, et donc elle n'était absolument pas liée à cette affaire-là.
Oui, mais elle n'a pas progressé depuis. Elle a été faite dès l'arrivée du président de la République au pouvoir et on se trouve dans une situation à peu près comparable. Enfin, rien n'a
tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si il y avait déjà une contestation sur la loi Leonetti éventuellement et sur le fait qu'il fallait peut-être la faire évoluer un peu, c'était avant l'affaire Vincent Lambert. Donc il me semble que ce sont deux sujets un peu différents. Pour moi, tel que je les vois au jour d'aujourd'hui, pour venir à l'histoire de Vincent Lambert, plus strictement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une évolution de la loi favoriserait tellement un dénouement différent dans l'affaire Vincent Lambert. Parce qu'il me semble que l'affaire Vincent Lambert est essentiellement liée au conflit familial qui existe. Et je ne suis pas sûre qu'une loi sur la fin de vie permettrait, ou une loi sur l'euthanasie, aurait permis un moindre conflit familial.
Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui est en jeu dans le cas Vincent Lambert ? Parce que je ne sais pas si tous les auditeurs l'ont à la mémoire.
Vincent Lambert est un jeune homme qui a aujourd'hui 37 ans, qui a eu un accident de voiture à l'âge de 32 ans, qui a eu des séquelles extrêmement lourdes de cet accident de voiture et qui aujourd'hui vit dans un état qu'on appelle poussi-relationnel. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune activité motrice volontaire et qu'il n'a plus de moyens de communication habituels par la parole, etc. Mais l'état possi-relationnel désigne aussi le fait que ces personnes continuent d'avoir un minimum de conscience et expriment un minimum de choses, ne serait-ce que quand vous rentrez dans sa chambre, il tourne la tête, il entend quelqu'un rentrer dans sa chambre, il suit du regard. Parfois, il a des manifestations de type émotionnel, par exemple, qui sont repérables. Voilà ce que c'est qu'un état possi-relationnel. C'est un état de conscience et de relation minimum avec l'extérieur.
La loi Leonetti permet l'arrêt des soins, mais pour des malades dans une situation particulière et pour un certain type de soins. Est-ce que, en particulier, des soins extraordinaires qui garantissent le maintien en vie? Est-ce que l'alimentation, là, dont bénéficie actuellement Vincent Lambert, parce que c'est essentiellement de cela qu'il bénéficie, entre dans cette catégorie? C'est là que les interprétations sont en conflit, me semble-t-il.
De ce point de vue-là, le Conseil d'État, dans son avis d'il y a quelques jours, a été extrêmement clair. Il a considéré que l'alimentation et l'hydratation artificielle étaient des traitements et qu'ils étaient visés par la loi Leonetti lorsque la loi Leonetti dit qu'en cas de situation d'obstination déraisonnable, on peut arrêter des traitements.
Mais le tribunal administratif n'avait pas jugé cela. Donc il a été, d'une certaine manière, le Conseil d'État a posé une forme de jurisprudence, non ?
Il a posé certainement une jurisprudence. Je ne suis pas sûre qu'il soit allé plus loin que la loi Leonetti elle-même. Parce que quand on reprend les termes dans lesquels la loi Leonetti a été débattue au Parlement et adoptée, il était très clair à l'époque que l'alimentation et l'hydratation artificielle étaient des traitements. Et donc, ça n'est pas contesté non plus par Leonetti soi-même. Et donc le Conseil d'État l'a rappelé. La vraie question qui reste pendante aujourd'hui sur l'affaire Vincent Lambert et sur laquelle doit encore se prononcer le Conseil d'État, c'est: est-on dans une situation d'obstination déraisonnable ? Et la situation d'obstination déraisonnable n'est pas liée au type de traitement dont dépend la personne. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est de l'alimentation et une hydratation artificielle que c'est de l'obstination déraisonnable ou que ça n'en est pas. Elle est liée au cas singulier, c'est-à-dire dans un cas particulier, est-ce que la médecine fait plus de bien que de mal ou fait plus de mal que de bien? C'est ça la définition de l'obstination déraisonnable. Et ensuite de ça, on peut s'interroger pour savoir qui doit décider si la médecine fait plus de bien que de mal ou de mal que de bien. Lorsque le patient est en état de le dire, il le dit et il refuse des traitements en disant « ces traitements-là sont pour moi trop, je ne veux pas de ça, la médecine me fait plus de mal que de bien ». Lorsque le patient n'est pas en état de le dire, parfois les médecins le disent, même du reste quand les patients sont en état de le dire, et les médecins disent « là, la médecine va trop loin ». Et à ce moment-là, elle fait plus de mal que de bien.
Et le disent de manière très collégiale, très informée, très renseignée.
Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas dire que ce curseur de l'obstination déraisonnable soit un curseur technique. C'est-à-dire que dans un cas, beaucoup de traitements, beaucoup de ventilation artificielle, beaucoup d'alimentation artificielle seront un moyen utile pour passer un cap et ne seront pas de l'obstination déraisonnable. Et les mêmes traitements, chez quelqu'un d'autre, deviendront de l'obstination déraisonnable, soit parce que le patient n'en veut pas et qu'il trouve que c'est trop, soit parce que la médecine trouve qu'elle va trop loin pour un bénéfice hypothétique, beaucoup trop lointain, et une souffrance apportée au patient beaucoup trop importante.
Alors, s'il y avait une évolution législative que le président de la République a appelée de ses voeux il y a 2 ans, quand il est arrivé au pouvoir, et au vu des débats qui ont été menés, de la conférence, la consultation citoyenne qui a eu lieu, de l'avis la réflexion en cours au Comité national d'éthique et le rapport de Didier Sicard qui a été rendu à la fin de l'année 2012, autant que je me souvienne, qu'est-ce qui a été au terme de ce vaste débat déjà en cours et au terme surtout de en observant l'expérience que vous avez acquise, qui est tout à fait considérable dans le centre d'études cliniques, quels vous paraissent être les points sur lesquels une prise de position ou pourrait être et éventuellement une avancée législative pourrait se produire?
Alors, d'abord sur cette question, il me semble important de comprendre quels sont les éléments qui font que peut-être la loi Leonetti aujourd'hui ne suffit plus. elle a été une grande avancée en son temps. Elle a vraiment permis de mettre sur la table le débat et de l'ouvrir largement. Et c'est vrai qu'un certain nombre de personnes, dont moi, pensons qu'aujourd'hui, cette loi ne suffit plus. Notamment parce qu'elle a entraîné un changement des pratiques des professionnels. Et finalement, elle a eu des effets considérables en matière de pratique. J'en nommerai deux. D'abord, elle a collégialisé la réflexion, c'est-à-dire que les gens ne prennent plus une décision seule.
Mais c'est une bonne chose.
Ce qui est une très bonne chose. La collégialité, telle que l'entend la loi Leonetti, ne comprend pas la famille ou les proches. En revanche, la famille ou les proches doivent être contactés pour savoir un peu ce qu'aurait souhaité la personne en question ou pour simplement discuter un peu de ce qu'eux aussi pensent de la situation dans laquelle est leur proche. L'autre chose nouvelle dans la loi Leonetti révisée, c'est qu'aujourd'hui, la famille ou les proches peuvent solliciter une réflexion collégiale par l'équipe soignante. Ils n'y participent pas, mais ils peuvent la solliciter. Alors qu'avant, il n'y avait que l'équipe soignante qui pouvait déclencher la réflexion collégiale. Mais c'est vrai que cette collégialité ne comprend pas la famille ni les proches. Par ailleurs, elle est essentiellement soignante, cette collégialité. Or, moi, ce que j'ai appris au centre d'éthique clinique, c'est que les médecins et les soignants que nous sommes, on a tous été formés à la même école et d'une certaine façon, on pense tous un peu la même chose sur ces affaires-là. Et la façon dont on réfléchit aux priorités, les valeurs qui nous sont les plus essentielles, ne sont pas forcément rangées dans le même ordre que pour les non-soignants et que pour donc les patients et les proches et les familles qui sont la plupart du temps des non-soignants.
Dans un cas de ce type, personne qui se trouve dans une situation où qu'on qualifie de possi-relationnelles, ou bien dans les cas de personnes plongées dans un état de coma, quel impact peuvent avoir d'éventuelles directives anticipées que ces personnes auraient rédigées? Parce que c'était quand même un des dispositifs de la loi Leonetti, ça aussi.
Alors, d'abord, il faut savoir que les gens ne rédigent pas de directives anticipées.
Ils sont 2%, semble-t-il, en fin de vie, qui ont rédigé dans les temps antérieurs une directive anticipée. Donc, c'est quand même un très petit nombre.
Et alors, je sais que, depuis que l'histoire Vincent Lambert est devenue une histoire assez... public, pourrait-on dire, il y a des instances qui sont débordées de demandes de gens qui veulent envoyer des directives anticipées ou savoir comment on en rédige, etc. Et c'est bien, mais je pense que ça restera toujours une partie infime de la population. Les gens qui ont adopté ce dispositif bien avant nous, il y a 20 ou 30 ans, comme les pays anglo-saxons, l'Australie, les États-Unis, etc., n'arrivent pas à dépasser un maximum de 15 à 20% de la population qui écrivent des directives anticipées. Et il y a fort à parier qu'il y a peu de jeunes hommes de 27 ou 30 ans qui vont prendre la peine d'écrire des directives anticipées en disant « si par hasard je me trouve dans la situation de Vincent Lambert, je voudrais que... » D'autant qu'il peut se trouver dans la situation de Vincent Lambert, mais il peut se trouver aussi dans d'autres situations. Et c'est très difficile d'arriver dans des directives anticipées à être précis sur ce qu'on veut véritablement et sur la limite que l'on entend laisser à la médecine dans la prise en charge de soi-même. Pour ceux qui les écrivent, en tout cas, il me semble que ces directives anticipées devraient être contraignantes, c'est-à-dire elles devraient s'imposer aux médecins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans la loi Leonetti. Donc ça serait déjà extrêmement important.
C'est le premier élément, c'est pas celui dont vous parliez tout à l'heure, mais premier élément pour y avoir une évolution de la loi. Lorsque vous avez rappelé les deux apports de la loi Leonetti, enfin en particulier la collégialité, l'obligation d'une collégialité médicale et la possibilité qu'avait la famille de susciter une réflexion de la part des médecins, alors comment, étant donné ces deux acquis de la loi, comment verriez-vous une évolution positive? Qu'est-ce qui vous paraît devoir être apporté?
Alors attendez, parce que sur les directives anticipées, juste pour finir, le problème est que ce qu'on dit aussi, c'est que les directives anticipées, on peut changer d'avis une fois qu'on est dans l'état dans lequel on se trouve. Et c'est ce que disent une partie de la famille, des membres de la famille de Vincent Lambert.
Qui n'avait pas rédigé de directives.
Il n'avait pas rédigé, mais il avait exprimé publiquement. Même s'il avait rédigé, ça aurait été pareil, parce que la famille dit aujourd'hui, mais quand on est véritablement en situation de, on ne pense plus la même chose. Et donc, on ne sait pas du tout s'il faut appliquer ou non ces directives anticipées. Et je pense que cette contestation aurait été exactement la même si Vincent Lambert avait écrit des directives anticipées. C'est pour ça que je dis que le problème dans cette histoire-là, c'est vraiment le conflit familial. Ce n'est pas le fait de changer. Et si on disait dans la loi demain que les directives anticipées doivent être contraignantes, il y aurait toujours quelqu'un dans la famille qui dirait « Mais moi, je suis sûr qu'il a changé d'avis. Il n'est plus exactement au même endroit que ce qu'il pensait auparavant. » Donc ça, c'est pour Vincent Lambert et les directives anticipées. Sur les deux apports de la loi Leonetti, le premier, il est la collégialité. Le deuxième, il est la traçabilité. C'est-à-dire de dire ce qu'on fait et de dire a posteriori ce qu'on fait vis-à-vis d'un patient donné. Ça, c'est très important. C'est-à-dire être transparent sur ses pratiques et pouvoir en être comptable, d'une certaine façon, aux yeux de la collectivité. Ce sont les deux apports de la loi Leonetti. Et très souvent, il y a une mauvaise compréhension de ces apports. C'est-à-dire que les gens considèrent qu'à partir du moment où on a dit qu'il faut une réflexion collégiale, eh bien, ça veut dire qu'il faut un consensus. Non. Dans la loi Leonetti, il n'est pas marqué qu'il faut un consensus. Il est marqué qu'il doit y avoir une réflexion partagée, collégiale, instruite, et ensuite le médecin, qui est en charge du patient, décide. C'est ça qui est écrit dans la loi. Or, très souvent, à partir du moment où il n'y a pas consensus, rien ne se fait. Et on confond collégialité et consensus.
Mais non, c'est on un confond point collégialité très et unanimité.
Et hein, unanimité, exactement. Deuxièmement, pareil, on confond traçabilité et secret médical. Il me semble que quand la loi Leonetti dit « il faut pouvoir écrire dans le dossier médical ce qu'on fait », ça ne veut pas forcément dire « je dois dire à l'avance exactement avec quels moyens je vais m'y prendre pour faire une limitation de traitement, et à quelle heure, et avec quelle drogue, etc. » Ça, à mon avis, ça relève de l'art médical, s'il en reste un.
Bien sûr, tout ne peut pas être absolument explicité.
Parce que si on explicite trop les choses à l'avance, évidemment que les gens vont dire non. Et donc, je pense que même dans ces deux acquis de la loi Leonetti, il y a des limites. Alors, les gens ont-ils traduit comme ils le voulaient les termes de la loi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire et que c'est pour ça qu'ils veulent un consensus, ou qu'ils ne veulent pas dire et que c'est pour ça que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'application de la loi elle-même a permis d'avancer dans la compréhension qu'ont les gens de ce qu'on leur demande de faire ou pas faire et de ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Donc ça, ce sont les deux acquis de la loi, avec ses limites, comme je disais. Il y a maintenant des limites à la loi Leonetti. Et les limites à la loi Leonetti, en dehors de ces deux, en dehors de ces limites sur ces premiers acquis, c'est essentiellement que finalement, aujourd'hui, les professionnels se concentrent plus sur la question de savoir s'ils ne sont pas en train de déroger à l'interdiction d'euthanasie. Ils sont complètement obsédés par l'interdit de tuer. Et c'est ça la grande limite de la loi Leonetti. Et finalement, on s'aperçoit, et c'est pas de la faute du législateur, et c'est pas la faute des concepteurs de la loi, mais de ce qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on réfléchit plus à ce qu'on fait qu'à ce qu'on doit aux patients. Et qu'à tenir compte du patient qu'on a en face de soi.
C'est-à-dire la qualification susceptible de recevoir l'acte du médecin plutôt que l'état du patient et le soulagement qu'on peut lui apporter. Alors, j'étais très frappée, si je peux enchaîner là-dessus, par l'article que vous avez publié dans Libération au mois de septembre dernier. Si vous me permettez de reprendre deux, trois points, vous rappeliez d'abord le rapport de la commission Sicard, décembre 2012, où M. Sicard, professeur Sicard d'ailleurs, qui est régulièrement invité à la question d'éthique, insister sur le fait que dans des cas extrêmes, il serait, dit-il, cruel de laisser mourir ou de laisser vivre sans apporter la possibilité d'un geste accompli par le médecin. Rapport du CCNE, Comité national d'éthique, début juillet, beaucoup plus réservé là-dessus et refus total d'envisager quoi que ce soit qui ressemble à un acte à la faveur des omissions et pas des actes. Et puis, vous indiquez que, selon vous, ça, la distinction laisser mourir et faire mourir a été considérablement renforcée à l'insu même du législateur, à la suite de la loi Leonetti. J'étais vraiment très frappée par cela. Si vous permettez, je peux vous citer. Précisément parce que les équipes soignantes sont devenues tellement omnubilées par la nécessité d'éviter absolument le faire mourir qu'elles peuvent en devenir aveugles à ce qu'elles font subir aux patients. C'est, quand même, c'est une affirmation très forte et paradoxale à première vue.
Oui, c'est paradoxal. Il faut s'interroger pour savoir pourquoi les équipes soignantes se comportent aujourd'hui comme cela. Probablement que l'injonction du législateur les pousse à cela, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Je pense que c'est aussi lié à un contexte sociétal. Et aussi, peut-être, à la façon dont la société considère ses médecins aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution de cela et de la place de la médecine dans la société. Aujourd'hui, on a beaucoup reproché aux médecins d'être des tout-puissants et la puissance médicale. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, eh bien, effectivement, ont internalisé l'idée qu'ils n'étaient pas là pour être des héros et qu'ils étaient là pour faire correctement leur boulot, et que leur boulot, c'était d'utiliser tous les moyens thérapeutiques disponibles et de les mettre au maximum à la disposition des patients. Mais que leur boulot s'arrêtait là, et que finalement, ils avaient une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats.
Et pas une obligation de ce qui est dû aux patients pour qu'ils souffrent le moins possible et qu'ils soient le moins mal non plus. Bon,
soulager la souffrance encore, ça fait partie de leurs obligations. Mais en tout cas, l'idée selon laquelle ils ont beaucoup introduit de médecine en espérant être bénéfiques aux patients, mais que finalement, ils ont été peut-être pas tant ça bénéfiques aux patients et qu'à la fin du jour, peut-être, ils ont été néfastes aux patients et que peut-être la responsabilité de la médecine va jusqu'à, à ce moment-là, ne pas faire en sorte de laisser ce patient l'otage de la médecine, comme Vincent Lambert. Ça, ça n'est pas encore rentré dans la culture des jeunes médecins.
Alors, puis je veux vous poser une question, sans doute une des dernières questions, mais aussi à la suite du rapport que vous avez piloté à l'automne 2011, et vous étiez venu à Question d'éthique pour en parler, sur la manière dont des très vieilles personnes se représentaient la fin de vie, enfin le terme de leur vie, et ce qui mettrait terme à leur vie. Y a-t-il une manière de comprendre le faire mourir avec tous les guillemets, puisqu'évidemment, le faire mourir, c'est un acte que nos lois criminalisent, mais le faire mourir comme autre chose qu'un acte correspondant, eh bien, par exemple, à une injection létale dans le cadre d'un suicide assisté? Parce que, si je me souviens bien des conclusions ou des observations que vous faisiez après ce rapport, au fond, très peu de personnes, quel que soit leur état de dégradation et de souffrance, souhaitent ça. Pourtant, elles souhaitent que quelque chose mette terme à leur vie. Alors, comment comprendre cette demande ?
C'est une très bonne question et une réponse difficile. Je ne sais pas bien. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train actuellement de travailler justement sur la façon, les conditions du mourir en maison de retraite auprès des les personnes très âgées qui sont en maison de retraite depuis très longtemps. Il y a un paradoxe. Lorsque les gens ne peuvent plus rester seuls chez eux et qui vont en maison de retraite, en général, ils y vont malgré eux, contre eux, contraints et forcés. Ils le font très souvent pour ne pas peser sur leurs proches et par souci d'être le plus léger possible. Et ils se retrouvent d'une certaine façon piégés. Parce que qu'est-ce que va faire la maison de retraite? Et elle ne peut pas faire autrement. Elle va essayer de s'en occuper bien. C'est son job. Et s'en occuper bien, ça veut dire eh bien, traiter le moins de petits bobos, nourrir, hydrater. Le nombre de personnes âgées en maison de retraite qui ont des perfusions sous-cutanées la nuit. On leur met du liquide dans le ventre parce qu'elles ne boivent pas suffisamment dans la journée et pour qu'elles ne soient pas déshydratées. Mais ce liquide dans le ventre, ça les maintient pendant des mois et des mois, alors qu'elles ne mangent plus, alors qu'elles sont incapables de boire toutes seules. Autrefois...
Et qu'elles veulent mourir pour autant qu'elles veuillent encore...
Nos grand-mères, elles ne voulaient pas mourir. Simplement, ce qui se passait, c'était que l'été, elles ne mangeaient plus, et puis elles ne buvaient pas trop, et puis elles étaient un peu déshydratées, elles battaient la campagne... Elles avaient l'esprit qui vagabondait. Plus l'esprit vagabondait, moins elles se nourrissaient, moins elles s'hydrataient, et elles finissaient par s'éteindre comme des bougies. Aujourd'hui, on ne peut plus s'éteindre comme une bougie. C'est ça le problème. C'est ça que voudraient les personnes âgées. Et c'est ça qu'on ne sait plus leur offrir, parce que finalement, on a voulu trop bien faire. Et il faut qu'on trouve une solution dans la société pour voir comment on peut faire, parce que ce n'est pas possible de continuer que les choses soient si difficiles pour les personnes âgées en maison de retraite pendant des mois et des mois et des années.
Oui, souvent ça s'exprime par une angoisse très, très grande qui exige des traitements et qui, bon, pour les derniers moments de la vie, ne sont pas peut-être ce que ces personnes auraient souhaité si elles avaient pu en délibérer un peu plus tôt. Alors venons-en maintenant, pour conclure, là, véritablement au suicide assisté qui commence à entrer dans le débat public, d'abord puisque plusieurs pays européens ont adopté des dispositions pour le faciliter, parce que des Français aujourd'hui ont recours. Depuis il y a quelque temps, à l'automne 2013, on lisait dans Libération un article très émouvant, enfin un témoignage très émouvant, comment je suis devenue un fils indigne d'un jeune homme qui n'avait pas voulu jouer un rôle direct dans la décision de sa mère de recourir au suicide assisté. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui pourrait être un des aspects de la loi ? Il semble que le président de la République, à un moment, l'ait souhaité. Que pensez-vous de cette perspective ? Ça devrait faire une émission entière, mais c'est juste pour conclure sur le prolongement de ce débat.
Le problème important aujourd'hui, c'est de ne pas faire de fracture entre la population et les soignants et les médecins sur ce sujet de la fin de vie. Ça me semble absolument capital. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus urgent à régler, c'est les gens qui meurent mal, comme on vient de le dire, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, ou au bout de la médecine. C'est-à-dire ces gens qui ont été portés par la médecine, guéris par la médecine, ou en tout cas, dont on a transformé la maladie aiguë en maladie chronique, les patients cancéreux, ou les patients sur un cardiaque, ou les patients... Et tous ces gens qui ont été traités et multitraités par la médecine, au bout, ils demandent que ça s'arrête et que la médecine les aide à ça. Et ils demandent que ça fasse partie du métier de la médecine, que de faire en sorte que ça ne dure pas trop à partir du moment où on est effectivement dans l'obstination déraisonnable ou l'acharnement thérapeutique. C'est le sujet numéro un. C'est celui-là qu'il faudrait débrider aujourd'hui, me semble-t-il, en urgence. Le suicide assisté des gens ou l'euthanasie des Français qui vont en Belgique aujourd'hui se la procurer, ça me paraît un autre débat. C'est un débat philosophique. C'est jusqu'où on peut être maître soi-même de sa vie et du moment où elle s'arrête. Ça me paraît un débat passionnant, très intéressant, mais peut-être trop précoce. Il me semble qu'il faut avancer par petits pas et qu'il faut déjà libérer la main des médecins en fin de parcours et faire en sorte qu'ils arrêtent d'être obsédés par cet interdit, éventuellement d'aider à mourir à la fin et au bout de la médecine.
Merci Véronique Fournier pour cet entretien. Merci à François Connac qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Châtelus qui était à la technique. N'oubliez pas Marie Richeux pour Pas la peine de crier, juste à l'instant. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain pour Question d'éthique. Très bonne semaine à tous.